14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors il y a quelques semaines, dans le monde d'avant, nous avions abordé ce thème avec le docteur Nasio, nous avions parlé de la dépression. Alors je vous propose de revenir sur ce sujet parce que son livre vient de sortir. Alors je le rappelle, c'est un livre que j'ai tout à fait trouvé formidable et je le conseille à tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec des humains. Alors on le sait, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont particulièrement anxieux. Alors quel est le rapport entre l'anxiété et la dépression? C'est déjà la première question qu'on va poser au docteur Nasio qui est avec nous. Et puis après tout, si on réfléchit un petit peu, la dépression, elle survient souvent lorsqu'un événement difficile nous surprend, comme par exemple une perte, la perte d'un être cher, mais ça peut aussi être la perte de quelque chose auquel on tenait, comme par exemple notre intégrité physique. Et je pense par exemple à ces grands sportifs qui sont frappés dans leur corps, qui ont un accident, qui doivent renoncer à faire de la compétition. On sait que c'est un moment difficile et que parfois on peut tomber en dépression. Alors ce virus, on peut imaginer malheureusement qu'il a développé des déprimes plus ou moins importantes. Est-ce qu'il y a plus de dépression en ce moment? Bien, c'est ce qu'on va voir également avec le docteur Nasio. En tout cas, si vous êtes très triste, c'est pas forcément une dépression, c'est peut-être juste une déprime. On fera peut-être aussi la différence entre les deux. Et puis si vous avez envie en tout cas de poser vos questions au docteur Nasio, on vous attend sur Sud Radio au 0826 300 300. Et j'ai tout de suite le plaisir d'accueillir le docteur Nasio. Bonjour Nasio.
Bonjour Brigitte, merci de m'avoir invité à votre émission et c'est un plaisir de travailler ensemble. Et oh, je précise une chose tout de suite pour nos auditeurs, c'est que le livre dû au problème du confinement, vous avez eu le privilège de le lire, mais malheureusement il n'est pas en librairie, il n'est pas disponible, et le livre ne paraîtra. En fait, je vais demander aux auditeurs d'avoir patience, il ne sera publié que en janvier, février de l'année 2021, donc il va falloir attendre un peu. Déjà aujourd'hui, on peut avancer déjà le contenu de ce que je vais dire et vont répondre aux questions que vous avez soulevées.
Oui, je crois que c'est... Alors moi, vraiment, franchement, docteur Nasio, comme toujours, tous vos livres, de toute façon, sont formidables. Mais je trouve qu'il est assez simple à comprendre, parce que la dépression, c'est un mot, finalement, qu'on connaît bien, que tout le monde utilise. Et finalement, on se pose quand même... Enfin, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il faut poser ce diagnostic. Et c'est peut-être pour ça que ces deux heures vont être importantes pour ceux qui nous écoutent, parce qu'on va essayer, justement, de bien préciser les choses. Alors, d'abord, on dit souvent que la dépression, c'est une maladie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, c'est une maladie. Effectivement, c'est une maladie qui, comme toutes les maladies, commence, dure et s'arrête. Et souvent, s'arrête, vous savez, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Bon, souvent, s'arrête tout seul, sans médicaments, mais ou sans psychothérapie. Mais il est souhaitable que si quelqu'un... est considéré déprimé, au sens, non pas une déprime, mais déprimé, à ce moment-là, il est souhaitable qu'il soit suivi par un professionnel, c'est vrai.
C'est-à-dire par un médecin ou par un thérapeute?
Non, ça peut être par un psychothérapeute, psychologue ou médecin, peu importe, mais qui peut bien s'occuper de lui. Il se peut que quelquefois soit nécessaire la prescription de médicaments psychotropes, donc d'antidépresseurs, dans ce cas-là, c'est vrai, ça serait le travail du psychiatre.
Alors, deuxième question, et qui me paraît évidemment essentielle en ce moment, on sait que beaucoup de personnes, du fait du confinement, se sont renvoyées un peu à elles-mêmes. On parle beaucoup d'anxiété. Est-ce que l'anxiété, c'est une première marche qui mène à la dépression, ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Si. L'anxiété est une première marche, comme vous le dites, c'est très bien votre formule, Brigitte, c'est une première marche vers la dépression, absolument. Je voudrais dire aux auditeurs, quand peut-on dire que quelqu'un est déprimé? Alors, il faut trois signes. De la même manière qu'aujourd'hui, on parle de le coronavirus, quels sont les signes de quelqu'un qui peut être malade, on parle de fièvre, on parle de toux, etc. Eh bien, pour la dépression, il y a trois signes qui sont très importants. D'abord, il y a une tristesse qui est une tristesse bizarre. C'est pas une tristesse normale. Nous sommes tous tristes. Nous avons été tous tristes à un moment ou à un autre de notre vie. Mais nous ne connaissons pas tous la tristesse du déprimé, la tristesse dépressive. La tristesse dépressive est une tristesse qui s'installe, qu'on ne connaît pas bien comment elle vient. Elle est irritable, la personne déprimée est irritable, est anxieuse.
Elle n'a plus goût à rien, c'est ça ?
Voilà, est anxieuse, est irritable. Et puis, le deuxième signe, donc le premier, c'est une tristesse un peu hypertrophiée et dont on ne connaît pas toujours bien l'origine. La deuxième chose, c'est effectivement le fait de se replier à l'intérieur de soi-même de façon excessive. On s'isole, on a envie de s'isoler, on n'a pas envie de trouver les gens, on n'a pas envie, on a
Là, on est vraiment dans la perte du goût de vivre.
Voilà, exactement. Mmh. Il y a différents degrés de la dépression, mais un des degrés, c'est cette perte du goût de vivre, absolument. Et puis, vous avez le troisième signe qui est très fréquent, c'est la difficulté, ce sont des signes physiques, corporels, difficulté pour dormir, on ne mange pas, et on n'a pas envie de relations sexuelles. Et un autre signe important, ça serait le quatrième, c'est qu'on ne s'aime pas soi-même. Ça, c'est très important. Donc, vous en avez la tristesse, l'isolement, l'envie de s'isoler, les troubles du sommeil, de l'appétit et sexuel, et quatrièmement, le fait de ne pas s'aimer soi-même. On est très critique à l'égard de soi-même. Mais ça, j'insiste, c'est l'état de la dépression. Et je voudrais que nos auditeurs n'aillent pas trop vite à dire « je suis déprimé ». Être déprimé nécessite un diagnostic d'un professionnel qui le dise.
Donc, si je comprends bien, docteur Nasio, quand on parle de grosses déprimes, de dépression, il faut que ces quatre signes que vous venez de signaler soient présents. C'est pas parce que tout d'un coup on a un peu moins faim et qu'on a plus trop de désir qu'on est en dépression. C'est juste
absolument, absolument.
Il faut les quatre pour pouvoir poser ce diagnostic.
Exactement.
D'accord. Alors, en ce moment, docteur Nasio, est-ce qu'il y a plus de personnes qui sont tombées en dépression justement à cause du confinement ?
Non. Je peux dire qu'en ces moments, curieusement, parce que quand le confinement a commencé, j'ai pu faire état d'un phénomène que j'apprends avec, vous savez, je suis en contact permanent avec mes propres patients. Je ne les vois pas, mais c'est par téléphone. Donc, nous faisons des séances téléphoniques d'une façon régulière. Donc, je peux suivre comment ils vivent le confinement. Et la chose importante, c'est qu'il n'y a pas des dépressions dues au confinement. Par contre, il y a, oui, de l'anxiété. Il y a, oui, des tensions agressives, surtout dans les couples. Ça, oui. Ou parfois, les parents avec les enfants. Mais non, pas de dépression dans les confinements, pas particulièrement. Cependant, je voudrais signaler, Brigitte, un phénomène très extraordinaire, c'est que le confinement, c'est un confort pour beaucoup des patients qui sont anxieux. Je ne parle pas des patients déprimés. Hein. Je parle des patients anxieux, où, comme vous avez dit, l'anxiété est un premier pas vers la dépression. Eh bien, les patients anxieux et angoissés que je peux avoir au téléphone, j'étais surpris dès le début du confinement par le fait qu'au contraire, ils sont très bien. Ils sont même très tranquilles, rassurés.
Ben oui, parce qu'ils ils restent chez eux, ils n'ont plus peur donc.
Et voilà, exactement. D'accord. C'est-à-dire que c'est un peu le rêve de tout névrosé. Le rêve du névrosé, c'est d'être rassuré et d'avoir ceux qu'il aime à côté de lui.
Donc, oui, bien sûr.
Et ce qui fait que les confinements, et s'est installé une sorte de situation bizarre où on a cru que le confinement pouvait provoquer des troubles. À mon avis, moi, je ne les ai pas vus. Peut-être d'autres professionnels l'ont constaté. Par contre, ce que je constate, oui, c'est le trouble et l'anxiété du déconfinement. Alors là, dans les dernières échanges que j'ai eu avec mes patients, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la plupart d'entre eux ont du mal à imaginer un retour à la vie normale.
C'est dû à quoi cette anxiété au retour justement à la vie normale? C'est l'angoisse face à la maladie?
Vous savez, l'être humain, il y a deux raisons à répondre. Premièrement, une raison, je dirais, instinctive, pulsionnelle. L'être humain fonctionne d'une façon très particulière. Plus il mange, plus il a envie de manger. Plus il dort, plus il a envie de dormir. Et je dirais, plus il se confine et reste confiné, plus il a envie de rester dans le confinement. Donc, le déconfinement, c'est-à-dire l'arrêt de cette situation qui est une situation de confort psychique, eh bien, ça coûte de changer. Tout changement chez nous, et surtout chez les personnes âgées et chez les enfants, c'est toujours difficile un changement. Surtout aussi important que, du coup, terminer le confinement et passer à retrouver les collègues, à commencer à travailler dans le bureau, à retrouver le responsable hiérarchique, à retrouver les contraintes, les exigences. Il y a beaucoup de mal à ça actuellement. Et
oui,
bien sûr,
oui.
Il se console en se disant que le confinement va durer un peu de temps encore, jusqu'au mois de juin ou un peu plus. Mais il y a une résistance. Il y a une résistance à revenir à la vie normale, puisque la vie normale, Brigitte Lahaye, la vie normale, c'est contrainte, ce sont des difficultés. Il faut assumer, il faut supporter.
Mais il y a peut-être aussi le docteur Nasio, la peur face au virus. Peut-être que les gens ont pris conscience aussi en ces quelques semaines qu'il y avait quand même un risque pour notre santé. C'est peut-être ça aussi.
Oui, ça c'est. Je dirais qu'il y a les deux aspects. Il y a un aspect très précis qui est la peur du virus, quoique. Si vous lisez les derniers, justement pour Sud Radio, il y a eu une évaluation des Français s'ils sont inquiets ou pas, et on voit bien qu'actuellement ils sont pas. Il y a une partie qui est inquiète pour le virus, mais c'est pas la majorité des gens. C'est 40% qui sont très inquiets pour la question du virus. Non, je pense qu'il y a certes il y a la question du virus, il y a la peur de la action de l'épidémie, mais il y a aussi la difficulté d'arrêter un temps spécial de vie qui est
de sortir de son cocon dans lequel finalement on n'est pas si mal.
Voilà,
évidemment.
Voilà,
très bien.
Et d'avoir à retrouver une vie où on souffre souvent des exigences. Alors qu'on ne devrait pas souffrir des exigences de la vie, c'est-à-dire que la vie qu'on travaille, la vie du travail, la vie habituelle, c'est une merveille. Sauf qu'il faut, l'aimer et vivre avec, puisque nous sommes des êtres qui agissent et qui travaillent.
Évidemment. Alors, justement, docteur Nasio, je propose aux auditeurs qui peut-être seraient très anxieux de reprendre la vie d'avant, eh bien de nous appeler sur Sud Radio au 0826 300 300, comme ça ils pourront converser avec vous et vous pourrez leur donner des bons conseils. Pour l'instant, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite avec François, qui a toujours été assez déprimé visiblement.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
En compagnie du docteur Nasio, nous évoquons la dépression. Alors si vous êtes, vous avez tendance à être en dépression, si vous avez votre partenaire qui a tendance à être en dépression et que vous voulez des conseils, vous pouvez nous rejoindre sur Sud Radio au 0826 300 300. Mais tout de suite, nous avons François. Bonjour François.
Bonjour.
Merci d'être avec nous François, ça va ?
Oui, ça va bien, merci.
Bon. Et vous avez tendance à être assez souvent déprimé, je crois. Hein ?
C'est pas exactement dans mon histoire, quoi. J'ai été très. Enfin, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, en fait, j'étais en dépression, mais une dépression chronique, latente, pas très forte, mais permanente. Mm-hmm. Et avec les années, ça s'est amélioré. Et je crois que ça s'est amélioré là. Au début où ça s'est amélioré, c'est quand j'avais 19 ans. Et 18 ans, j'ai appris la méditation transcendantale. Ça m'a fait sortir de... Ça m'a ouvert quelque chose, quoi. Voilà.
Vous étiez dans une famille où il y avait des personnes, justement, très, très déprimées ?
Oui, ma mère avait fait dépression. Ouais. Mmh. Ouais.
On peut penser, docteur Nasio, qu'il y a quelque chose comme ça souvent, hein, de cet ordre-là, quand un enfant...
Absolument, qui vient de... Bonjour François.
Bonjour.
Et le fait que vous disiez que votre maman était en dépression, et ça a indiscutablement une influence sur l'enfant que vous étiez et même sur l'adolescent que vous étiez.
Oui, surtout sur l'adolescent, ouais, je crois.
Oui, oui. Et je pense que l'adolescence... C'est un âge, c'est une période de la vie qui est très fragile. C'est, je dirais, de toutes les périodes de la vie, c'est le plus fragile parce que l'être n'est pas encore, il a cessé d'être enfant, il n'est pas encore adulte. Donc c'est un moment de grande fragilité et souvent, absolument, viennent, s'installent des dépressions. Parfois d'autres types de souffrances que la dépression. Mais souvent, ça prend la figure de la dépression. Donc, ça ne m'étonne pas que vous aviez eu...
Oui, je crois qu'il faut rappeler, docteur Nasio, que c'est une période où il y a énormément d'adolescents, enfin énormément, il y a beaucoup d'adolescents qui peuvent se suicider. Ça montre bien à quel point il y a une fragilité à cette période de la vie.
Oui. Et disons que, pour informer bien les auditeurs, le suicide chez les adolescents, la plupart du temps... sont des suicides des adolescents qui vont particulièrement mal. Ce n'est pas simplement des adolescents qui traversent une phase de dépression ou un état dépressif. Dans l'adolescence, il y a d'autres maladies plus graves qui vont conduire au suicide, effectivement. Donc, c'est vrai ce que vous dites, Brigitte, à l'adolescence. L'adolescence est un âge où le suicide... et fréquent, surtout chez les garçons. Les suicides avec mort, les tentatives de suicide fréquentes, ce sont chez les filles, et chez les garçons, c'est des suicides
plus violents,
qui aboutissent. Oui.
Oui, parce que les filles, elles prennent des médicaments, et puis souvent, heureusement,
voilà, c'est des tentatives, voilà. Mm-hmm. Mais bon, disons que ce n'est pas dû à la dépression. La dépression, c'est... Vous savez, la dépression est un état qui peut être l'état dans lequel se présente. C'est comme une fièvre dans laquelle une autre maladie va prendre cette forme une autre maladie comme des maladies plus graves, comme des maladies, des trastornes, des troubles mentaux, peuvent prendre la forme de la dépression. La dépression est une figure d'apparence, c'est quelque chose avec laquelle se présente une autre maladie. Je parle surtout dans l'adolescence.
En tout cas, François, ce qui est intéressant, c'est que vous étiez donc dans un état un peu déprimé, voire peut-être même début de dépression. Il y avait du vide à l'intérieur de vous et la méditation a rempli ce vide. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui vous a permis de vous recentrer de l'intérieur et je trouve ça... très intéressant, moi, comme démarche.
Ah oui. Oui, en fait, ouais, ce que je dirais, c'est pas tellement qu'il y avait un vide, c'est qu'il y avait des blocages. Mm-hmm. Et que que la méditation.
Vous aviez goût à rien, vous saviez pas vers quoi aller,
voilà,
c'était fermé.
Ouais.
C'est ça?
Ouais. Et donc la méditation a créé des ouvertures.
Oui.
D'accord.
Mais François dit aussi, en commençant son témoignage, il a dit que il a toujours une dépression chronique. Ça veut dire que
j'ai eu pendant des années.
Ça a duré, ça dure encore.
Oui, ça a duré.
On peut dire qu'aujourd'hui même, vous pouvez vous dire j'ai une dépression chronique parce que ça dure depuis longtemps.
Alors, ça, j'aurais pu le dire il y a encore quelques années.
Mm-hmm.
Que j'ai travaillé, ce qui m'a ensuite, enfin, au début, j'ai pratiqué la méditation, mais j'ai pas cherché à voir d'où venait ma déprime. J'ai surtout essayé de m'en extirper, de la mettre à côté, quoi, qu'elle prenne pas, que je la vois le moins souvent. Et puis au bout d'un moment, je me suis aperçu que comme ça revenait forcément à telle ou telle occasion, j'étais reconfronté à ces blocages. Donc après, j'ai fait des travaux de psychothérapie et divers et variés. C'est vraiment été un ramonage important. Mais il n'y a que depuis quelques années, je ne sais pas. Enfin, ça s'est amélioré progressivement, mais il n'y a vraiment que quelques années où maintenant je peux dire qu'elle est plus là, la dépression, du tout. Et au contraire, c'est une grande.
Une
joie intérieure, une lumière intérieure.
Oui. C'est intéressant parce qu'on voit bien, encore une fois, docteur Nasio, que c'est pas. On peut s'en sortir, quoi. Et le témoignage de François, je trouve, est très positif.
Absolument. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est une maladie qui commence, qui dure et qui s'arrête. Et qu'il faut que la moitié de la population de patients qui ont subi une dépression, ce n'est qu'une seule fois. Ça s'appelle un épisode majeur dans la vie d'une personne. Heureusement, il n'y a que le 50% des personnes qui se sont déprimées qui ont un seul épisode dans leur vie. Et puis, il y a l'autre 50%, vous me direz peut-être que c'est beaucoup, mais c'est ainsi, que peuvent avoir plus d'un épisode, il peut avoir deux, voire trois épisodes dépressifs dans la vie d'un patient. Et là, effectivement, on a une tendance à la dépression chronique. Et c'est vrai que la dépression est une maladie qui tend à se chronicisser facilement.
Sauf quand on se prend bien en main, comme l'a fait François.
Absolument. Moi, je trouve que François, je vous remercie, François, parce que c'est un beau témoignage, le vôtre. D'abord, vous nous apprenez que ça a commencé très tôt. Vous nous apprenez que votre maman était déjà déprimée. Vous nous apprenez aussi que vous avez réussi avec la psychothérapie, avec un effort, parce que ça aussi, c'est important, l'effort du patient lui-même. Vous avez réussi à vous débarrasser de cette souffrance, absolument.
Oui, et je
vous remercie. Oui, allez-y, François.
Je voudrais rajouter une chose, c'est que c'est peut-être comme une maladie de maturation, en fait, de la personne, parce que on est en général tourné vers l'extérieur, et donc tant que à l'extérieur ça répond et que ça anime quelque chose en nous, on n'est pas déprimé. Mais si un jour tout ce qui est extérieur s'arrête et s'inverse et devient négatif, ressent négatif, à ce moment-là, forcément, il y a dépression. Donc, ce qui nous conduit à revenir vers l'intérieur et à trouver qu'en fait, que finalement, le bonheur, c'est une condition intérieure. C'est pas une condition extérieure.
C'est
absolument.
Joliment dit, François, et c'est tellement juste. Il faut être pour soi le centre du monde, et c'est ensuite, évidemment, qu'on peut être très bien relié aux autres. Mais il faut pas attendre tout des autres, parce que sinon, en effet, on peut rester longtemps déprimé. Merci de ce beau témoignage pour commencer cette émission, François. Allez, on se quitte un court instant, et on retrouve Christophe Médici, qui pour notre Sexy News, dans un instant.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, docteur Nasio, c'est notre reporter en nouvelles technologies, Christophe Médici, que nous retrouvons. Bonjour Christophe.
Bonjour Brigitte, bonjour docteur Nasio.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, votre voix est dynamique, Christophe, tout va bien.
Oui, très bien. Justement, c'est complètement en phase, ma chronique aujourd'hui, sur le sujet que vous développez avec le docteur Nasio. Parce que, vous le savez, Brigitte, hein, selon l'une des 7 lois de l'univers, la loi du genre, tout a un pôle masculin et un pôle féminin. Et donc, le genre se retrouve partout, ce principe masculin et féminin se retrouve partout. Et j'ai trouvé sur Internet qu'il semble bien qu'il existe un confinement masculin et un confinement féminin. Et j'ai trouvé une étude sur Internet, lyonnaise, qui va certainement aussi intéresser le docteur Nasio et tous nos auditeurs. Je l'ai trouvé particulièrement passionnant. C'est une étude qui a été menée par la chercheuse Lise Bourdeau-Lepage auprès de plus de 1000 confinés depuis le début du confinement. Et ils nous apprennent que les femmes, Brigitte, ne vivent pas le confinement de la même façon que les hommes. Voilà,
ça va pas vous étonner.
Oui, ça va pas vous étonner. Alors, que nous apprend cette étude ? Différentes choses déjà. D'abord, bon, il y a évidemment de fait une légère baisse du niveau du plaisir des confinés et de leur bien-être plus le confinement avance. Bon, deuxièmement, ce phénomène est quand même accentué chez les personnes dont le niveau de vie avant était déjà peu satisfaisant avant la crise sanitaire, dit l'étude. C'est une source d'inquiétude majeure qui est double. D'abord, il y a les difficultés économiques présentes et à venir dont ont peur certaines personnes. On a une grande peur pour certains de l'avenir, selon l'étude. On risque beaucoup de chômage. Et puis, lise le page Bourdeau, les restrictions liberté, entre guillemets, là je la cite, hein, elle dit que la liberté de mouvement nous épanouit et le fait de ne pas pouvoir le faire impacte quand même sur notre bien-être. Bon, c'est corroboré à la place en phase, parce que le Premier ministre nous a dit hier au sujet du déconfinement que grâce à ce confinement, quand même, nous toutes et tous qui sommes quand même très citoyens, avons sauvé près de 60 000 vies grâce à ce confinement. Faut pas l'oublier, ça, hein. Je pense que c'est important. Les conséquences au niveau de la santé. Alors, d'après l'étude, des insomnies quand même plus fréquentes chez 40% des enquêtés. Voilà, on dit chez les enquêtés que les gens dorment moins bien. Pour 40% même, ils n'ont pas qu'un sommeil agité, ils ont de l'insomnie. Une fatigue supplémentaire chez 60%. Et alors là, on vient à ce que le docteur Nasio a développé. Une tristesse passagère plus marquée qu'en temps normal chez 50% des enquêtés, même si c'est une mini-tristesse. C'est pas la dépression, hein, bien entendu. Alors, évidemment, le confinement est plus éprouvant chez le quart des Français qui le vivent seuls chez eux. Il faut voir qu'un quart des Français le vivent seuls chez eux. C'est parfois plus difficile qu'accompagner. Et que nous dit cette étude, et là j'y viens, Brigitte, c'est que les femmes s'en sortent mieux que les hommes. Les femmes s'en sortent mieux que les hommes en majorité. D'abord,
c'est assez logique parce que les hommes ont besoin de plus bouger que les femmes. Hein. C'est actif dans leur essence. Enfin, il me semble.
Ouais. Elles n'estiment pas, primo, que leur niveau de bien-être soit plus détérioré qu'avant par rapport aux hommes, Brigitte. Leur niveau de satisfaction quotidien a nettement moins baissé que celui des hommes. Ça corrobore ce que vous venez de dire, n'est-ce pas, hein ? Et alors, en parallèle, il y a un autre sondage à risque qui, lui, a été commandité par le ministère chargé d'égalité des hommes et des femmes, qui est sorti sur Internet. J'ai cherché pour notre émission en tant que sur la toile. Hein. Et là, dans cette étude à risque qui a été commanditée par le ministère de l'Égalité, les femmes estiment assurer, en temps normal, 70% des charges familiales et domestiques dans la maison. Et alors, ce chiffre, figurez-vous, Brigitte et docteur Nasio, est en hausse depuis le début du confinement.
C'est peut-être qu'est-ce qui est en hausse ? Pardon, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui est en hausse ?
La hausse du fait que les femmes...
Les tâches ménagères, hein.
Oui, ah, c'est ça. Bien sûr.
Familiales et domestiques. Alors, elles disent aussi qu'il faut s'occuper en plus et faire la classe aux enfants et aux ados, quoi, ils en ont. C'est-à-dire qu'ils sont en plus enseignants et enseignantes. Et la plupart du temps, en majorité, c'est les femmes qui s'y collent. Donc, depuis le confinement, la charge mentale des femmes a augmenté. Malgré tout, elles n'estiment pas, elles s'en sortent mieux que les hommes. C'est intéressant, ça. C'est intéressant de voir pourquoi, d'après vous, docteur Nasio, ça, que les femmes.
Mais c'est très intéressant. Mais comme on le dit, Brigitte, la femme. Mais ça, c'est historique. Je dirais, malgré ce qu'on peut dire, je trouve que l'être féminin a des pulsions qui sont différentes de l'être masculin. Bien sûr qu'il y a des influences sociales, mais il y a aussi une part instinctive. Je pense que dans la femme, il y a cette part instinctive de s'occuper du nid, du lieu,
bien sûr.
De la racine. La femme est celle qui installe la racine. C'est ce que je peux en dire.
Mais de toute façon, Si on revient encore une fois à l'époque des cavernes, on sait très bien que la femme était capable de s'occuper de surveiller le feu pour pas qu'il s'éteigne, de s'occuper des enfants, de préparer à manger. Enfin, elle faisait plusieurs tâches en même temps, tandis que l'homme, lui, il allait juste chasser. Alors, je dis pas que c'était simple d'aller chasser le mammouth, hein. Mais il y avait une action bien dirigée et puis c'était tout. Nous, les femmes, on est capable de faire 3-4 choses en même temps, alors qu'on sait très bien qu'un homme, dès qu'il commence à faire quelque chose, il ne peut plus parler, et s'il parle, il ne peut plus faire ce qu'il était en train de faire. Enfin, je veux dire, je schématise un petit peu, mais c'est quand même... Enfin, moi, je l'ai quand même très souvent observé.
Absolument. Alors, non, mais vous avez tout à fait...
La ministre Marlène Schiappa, vous savez, qui est justement la ministre à l'égalité homme-femme, n'est-ce pas, oui. Hein, depuis cette étude, elle a dit qu'on risque peut-être quand même de voir arriver à la fin du confinement une vague de burn-out parentaux, parce que les parents quand même sont assez épuisés d'avoir la classe à faire en même temps, et tout ça. Alors moi, je donnerais 5 petites pistes pour aller mieux et puis augmenter le bien-être. La première piste,
allez-y,
je crois,
oui,
qu'il faut se fixer au quotidien des rythmes définis. C'est pas si mal. Je disais déjà la semaine dernière, tenter de se coucher à heure fixe et de se lever à heure fixe, et même se fixer des rythmes dans la journée. Deuxièmement, se faire 3 mini-plaisirs. Vous savez ce que Florence Servan-Schreiber appelle 3 kiffs par jour. Se faire des mini, 3 mini-plaisirs perso. Mais ça peut être vraiment des mini-plaisirs, hein. Je bois mon thé vert à telle heure et je regarde, je fais quelque chose. C'est important. Troisièmement, j'y reviens, mais c'est quand même important. On le voit sur Internet.
Vous, votre mini-plaisir aujourd'hui, c'était de participer à l'émission à 14h30?
Mais c'est pas un mini, Brigitte. C'était un mini. C'est un maxi-plaisir.
Non, c'est formidable. Alors
je précise qu'on fait ensemble l'émission la semaine prochaine, je crois, Christophe. Hein.
Je crois et j'en rêve.
Ben, ce sera là, ce sera un maxi, ce sera un orgasme de plaisir.
Voilà, ce sera énorme.
Non, mais je réagis à la formidable intervention de Christophe pour dire qu'effectivement, dans la femme, il y a cet enracinement, comme je disais tout à l'heure, cette nécessité d'unir. Mais attention, mais elles sont aussi les femmes, je dirais, à la différence des hommes, elles peuvent faire les deux, et s'occuper du nid, et aller à la chasse aussi. C'est-à-dire qu'elles ont cette capacité d'action si elles se sentent en condition et se sentent aimées, elles sont capables de faire les deux choses.
Tandis c'est que ce nous, que font les hommes. Les lions, d'ailleurs, non, docteur Nazio, c'est ce que font les lions. Elles vont chasser pour le lion parfois.
Mais c'est vrai que les hommes actuellement, on commence à voir combien on peut faire travailler à la cuisine ou s'occuper des placards. Mais c'est vrai que chez l'homme, ce qui domine, c'est l'action, comme vous dites, c'est l'action extérieure, c'est d'agir. C'est pour ça que on imagine dans un confinement la femme en train de s'activer pour ranger la maison, pour la nettoyer comme jamais avant, pour s'occuper des enfants, etc. Et l'homme qui nécessite le télétravail, par exemple, nécessite d'être dans le bureau avec le télétravail. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont très présentes dans l'extérieur et elles sont très actives aussi. Hein. En d'autres termes, ils ont à faire les deux.
Ouais, comment en azur avec le petit pas sombre que dit l'étude et que disent d'autres études que j'ai pu faire en préparant l'émission, qui disent qu'il y a par contre, et on s'attend à cause de ça, il y a par contre des couples chez qui c'est un frottement, ce moment où à se retrouver tous les deux, découvrent des choses de l'autre qu'ils n'avaient pas découvert avant ce confinement parce qu'ils étaient moins ensemble H24, j'ai envie de dire, et on s'attend, dit cette étude, à une vague de divorce, figurez-vous, après quelques mois après ce confinnement.
C'est vrai.
Voilà,
C'est ce qui s'est passé en Chine, hein, de toute façon.
Oui, tout à fait, Brigitte, c'est exactement ce qui s'est passé en Chine.
Mais moi, je crois, Christophe Medici, docteur Nazio, c'est vraiment ce que je réalise avec différentes personnes avec qui je parle en dehors de l'émission, des personnes qui viennent souvent faire l'émission avec moi. Au fond, ce confinement, c'est comme une retraite qu'on ferait dans un temple bouddhiste ou etc. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va au centre de soi, comme le disait François il y a un instant, et on réalise ce qui va bien dans notre vie et ce qui ne va pas dans notre vie. On a ce temps suspendu où on peut réellement faire une petite introspection personnelle et on voit si sur le plan professionnel, ben, finalement, on est dans les bons choix. Si, et on voit évidemment sur le plan amoureux, affectif, si on est avec un partenaire avec lequel on est bien, si on a fait un bon choix, ou si finalement il nous encombre plus qu'autre chose, et qu'à ce moment-là, à partir du moment où on va ne plus être confiné, on n'a aucune raison de rester avec lui. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe pratiquement pour tout le monde, non ?
Oui, je suis d'accord. C'est justement ce que je voulais dire en conclusion, justement, à tous nos auditeurs, c'est que ce soit pour les parents, c'est un bon moment, effectivement, révélateur. Un, pour redéfinir les rôles de chacun. Deux, pour réguler positivement, voire faire un point sur sa vie. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous venez de dire, Brigitte. Voire améliorer sa communication interpersonnelle quand on est qui en couple, qui dans la famille. La bonne nouvelle, c'est que la communication, ça s'apprend. On oublie de ça en France. David Savant-Schreiber, paix à son âme, le disait il y a bien avant aussi. On est persuadé en France que ça ne s'apprend pas. Et conclusion, je dirais que plus que jamais, vivre ensemble, et surtout confiné, ça nécessite de faire preuve d'écologie relationnelle. Je sais que vous aimez ça autant que moi, mais vraiment, faisons attention à ce que nous disons les uns aux autres. C'est pas le docteur Nazio qui va me contredire.
Non, absolument, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le confinement est une situation régressive. Ça veut dire que tout ce qui est primaire, primitif, est mis en premier rang, première place, qui est soit manger, soit dormir, ou parfois se disputer, parce que, comme vous l'avez dit, Christophe, effectivement, là, on est plus près de l'autre, on voit mieux ses défauts, on voit mieux ses qualités aussi. Mais le confinement est un lieu de régression, que actuellement, à l'heure que nous parlons, ça commence à bouger et les gens commencent à s'élasser un peu de cette situation du confinement. Il y a un mouvement vers le déconfinement. Et là, il y a une nouvelle situation psychologique, je dirais, où effectivement, il y a ce que disait Brigitte, qu'on fait une analyse, un peu d'introspection pour revoir l'ensemble de la vie qui est la nôtre, ce que nous faisons, avec qui nous vivons. Mais aussi, attention, parce que dans cette analyse qu'on peut faire, parfois il y a la peur d'arrêter le confinement. C'est-à-dire de passer, comme je disais tout à l'heure en commençant l'émission, d'avoir à retrouver la vie de tous les jours. Et parfois, la vie de tous les jours, on la voit à tort comme une vie qui est difficile ou angoissante. Pour beaucoup de personnes, ils craignent d'avoir à retrouver le travail tel qu'ils le vivaient avant.
Oui, les contraintes du travail, bien
tout
sûr.
Tout à fait, alors que...
Les contraintes des transports en commun, enfin bon, c'est vrai que ce n'est pas non plus toujours une vie professionnelle
toujours
rêvée. Hein,
mais en même temps, ce que j'aurais aimé dire, c'est que, notre vie est telle qu'elle... La question des contraintes, c'est qu'il faut vivre la contrainte non pas comme une contrainte qui nous fait mal, mais comme une contrainte qu'on accepte et qu'on oublie que c'est une contrainte. C'est ça la vie, c'est là où nous devons y aller, c'est-à-dire pouvoir travailler sans y penser qu'on a un effort et un effort douloureux parfois.
Bien sûr.
Je dis ça en m'adressant à tous ceux qui... ont la crainte de retrouver le travail.
Bah écoutez, on pourra peut-être en parler avec eux. On pourra peut-être en parler avec eux s'ils ont envie de témoigner sur Sud Radio. Merci beaucoup, Christophe Médici. Vous me direz
merci
de quoi vous allez vous parler
merci
la semaine
Christophe
prochaine. Alors, tout de suite, on retrouve Gabriel qui va tester avec nous son quotient sexuel. Bonjour, Gabriel. Gabriel, vous êtes avec nous ? Alors, j'ai l'impression que Gabriel est en train de nous écouter, mais qu'il n'est pas réellement avec nous. Gabriel.
Oui.
Bon, eh ben, c'est pas... Oui, ça y est, vous êtes là ?
Oui, je suis là. Je suis là, j'ai éteint ma télé, en fait. J'écoutais Christophe Domenici et le docteur Nazio, c'est ça ?
Docteur Nazio, oui.
Nazio, d'accord.
C'est ça. Et ce n'est pas Christophe de Médici, c'est Christophe Médici tout simplement.
Médici, d'accord. Excusez-moi.
Oui, restons simples.
Domenici, ça doit être un rugbyman.
Bon, alors trois questions et j'espère que vous allez trouver la bonne réponse. On va commencer par une question de santé, comme souvent le mercredi. Quelle est l'hépatite qui se transmet par le sperme ? Alors c'est facile, il y en a trois, hein, A, B ou C. Et c'est laquelle qui se transmet par le sperme ?
Alors j'avais un copain qui l'avait chopé, mais alors je ne sais plus si c'est l'A ou la B. c'est, je sais plus, franchement.
En tout cas, vous avez raison, c'est pas
médical,
assez.
Tout ce qui est médical. Chance. Ouais, après, c'est.
Une sur deux.
Hépatite. Ben, je vais dire au hasard.
Oui.
Hépatite B.
Eh bien, vous avez. Le hasard joue bien pour vous. C'est en effet l'hépatite B qui se transmet, qui est une infection sexuellement transmissible. Deuxième question, vous connaissez le point G, bien sûr, Gabriel. Hein, c'est un gynécologue du nom de Graffenberg. Je ne vous demande pas le nom du gynécologue, vous voyez, je suis gentille.
Ni le prénom.
Graffenberg, donc G comme le point G, hein, qui a découvert ce point G en faisant des autopsies sur les femmes. Hein, il avait déjà eu cette intuition en tant que gynécologue, et puis donc il a fait quelques autopsies sur les femmes et il a pu donc affirmer qu'il y avait une zone différente dans le vagin. Je vous demande en quelle année cette découverte a été faite.
C'est dur, Brigitte, là c'est dur. Hein.
C'est dur, hein.
Oui, parce que je ne sais même pas si
c'est dur. Non, c'est pas si ancien que ça. Hein.
Il n'y a même pas un siècle.
Hein.
C'est du siècle dernier.
Non, du siècle dernier, forcément.
C'est 1900 quelque chose ou c'est 1800 quelque chose.
Oui, oui. Non, c'est 1900 quelque chose. C'est 1900 quelque chose.
Vous me donnez une fourchette de combien?
Bon, une grande fourchette. Plus grande que le point G.
Moi, je dirais que c'est autour de 1920.
Un peu après. C'est en pleine guerre.
Ah, en pleine guerre. 14-18
non, 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 bah non. 39, j'ai dit 45. Un peu après 1920, Gabriel. Écoutez-moi, j'ai dit un peu d'accord. Après 1920 et en pleine guerre. Donc,
on va dire en 1940.
Allez, 44.
44, d'accord. 1944. C'est pas le début, c'est la fin. D'accord.
C'est la fin de la guerre. C'est récent, hein, quand même, quand on y réfléchit, finalement. Hein.
Ouais, en fait, il ne s'était pas posé la question.
Je pense que, enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, hein, il parlait sans doute beaucoup de sexualité avec ses patientes, et puis à un moment donné, il a disséqué un peu les corps de femmes, et puis il a découvert ça, et il l'a affirmé en 1944. Bon, dernière D'accord. question. Quelle est la particularité du sexe de Toulouse-Lautrec, pardon. C'est une particularité assez impressionnante.
D'accord, bah vous m'avez mis sur la voie là.
Bah oui, bien sûr.
D'accord, parce que sinon j'allais dire qu'il avait un sexe recourbé, vous savez, la maladie de la péronie, mais en fait...
Non.
Donc en fait, il était super bien monté.
Ouais, il avait, il paraît-il, un sexe surdimensionné, à tel point que les danseuses du Moulin Rouge, vous savez qu'il a beaucoup fait de tableaux sur le Moulin Rouge, hein, donc il fréquentait beaucoup les danseuses, et elle l'avait appelé la verge à deux pattes.
D'accord.
Il avait un sexe surdimensionné. Voilà.
La bite sur patte, on va dire.
Si vous voulez. Bon, en tout cas, ça ne nous apprend pas grand-chose d'intéressant, mais c'est toujours marrant de connaître des petites informations comme ça.
Et bravo, Gabriel. Toulouse-Lautrec, c'était quelle époque?
Alors ça, c'est le début du siècle, je crois. Hein. Je sais plus. Alors là, vous me posez une colle. Mais je crois. On va vérifier ça.
Fin du 19e, début du 20e, oui. Fin du 19e.
D'accord. Mm-hmm. D'accord.
Voilà.
Est-ce que je pourrais poser une question au docteur Nasio, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr, Gabriel, oui.
C'est alors, gentil. Vous restez avec nous, on d'accord. fait une petite pause et vous super. Posez votre question au docteur Nasio dans un instant.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec le docteur Nasio, nous évoquons la dépression et bien sûr, on vous invite à réagir sur Sud Radio 0826-300-300. Mais pour l'instant, Gabriel, je crois que vous vouliez poser une question au docteur Nasio. Il vous écoute.
Très bien. Oui, merci docteur Nasio. Donc, je voulais savoir, moi je me suis rendu compte que souvent, je ressentais, on va dire, une certaine forme de déprime quand j'avais un sentiment d'impuissance. Donc, le sentiment d'impuissance, il me mettait en colère. Et si je trouvais pas une solution... Eh ben, j'avais tendance à sombrer dans une espèce de déprime, quoi.
Oui, vous avez dit juste un phénomène qui arrive souvent, c'est effectivement qu'une des motifs de la tristesse, surtout chez l'homme, c'est bien, je dis bien chez l'homme, c'est le sentiment d'impuissance. Et je dis toujours que chez la femme, souvent la dépression vient parce qu'il y a
quelque chose qui la rend triste, tandis que chez l'homme, il y a quelque chose qui le rend angoissé parce qu'il se sent impuissant. Et c'est vrai que l'impuissance peut conduire à un sentiment d'accablement, de pas être content avec soi-même, et un sentiment aussi un peu de désespoir que ce dont on souffre va pas s'arranger. Je profite pour votre question, Gabriel, pour dire que une des particularités de la personne déprimée, mais là, tel que je le disais tout à l'heure, lorsqu'on est malade de dépression, c'est qu'il est trop absolu. Tout est tout ou rien. Et donc, quand il y a quelqu'un qui a découvert une impuissance, mettons une impuissance sexuelle, par exemple, eh bien, pour lui, c'est tout ou rien. Ça veut dire, c'est pour toujours, c'est définitif. Il ne peut pas croire que ça va s'arranger. Le déprimé, c'est quelqu'un qui vit la vie quand il souffre d'une manière avec une vision noire et définitive. Donc oui, effectivement, l'impuissance, le sentiment d'impuissance peut conduire à un sentiment de tristesse.
Alors, il y a quelque chose d'intéressant.
La solution donc pour sortir de ce mécanisme.
Bah, la solution, c'est, je vais dire, d'abord d'écouter une émission comme celle dont nous parlons, c'est-à-dire que quand vous m'écoutez, moi, si quelqu'un qui nous écoute vit cela, il va sentir que je corrige la vision absolue qu'elle a, que la personne a. En m'écoutant, elle va pouvoir se dire, ben non, la vie n'est pas définitive, elle n'est pas, c'est transitoire, c'est réversible. Et ce qui compte, c'est de la force qu'on a en soi-même. Peut-être je peux être impuissant à un moment avec telle femme ou telle autre, mais ce qui compte, c'est moi-même, c'est mon être même et la possibilité que pour une autre femme, je me redécouvre différent, par exemple.
En fait, je parlais pas au niveau sexuel. En fait, moi, j'ai un souvenir quand j'étais enfant d'une grosse dispute entre mon papa et ma maman. En fait, mon grand-père était très malade. Il avait eu une espèce de crise cardiaque. Et ma maman voulait aller le rejoindre donc son père avant qu'il décède éventuellement. Et mon père lui a répondu tout simplement, mais de toute façon, le temps que tu arrives, que tu prennes le train et que tu ailles que tu ailles dans son pays, de toute façon, s'il a eu une crise cardiaque et si c'est vraiment grave, de toute façon, ça sera trop tard. Et du coup, ma mère était furax. Elle était furax et moi, je me suis senti impuissant.
Oui, impuissant de ne pas savoir comment intervenir. Quel âge vous avez en ces moments?
Ah, je sais pas, je devais avoir 5-6 ans, un truc comme ça.
Bien sûr.
J'ai vu ma mère furax, triste, désespérée, et en colère contre mon père. Mon père, lui, il était dans sa logique, on va dire, terre à terre. De toute façon, s'il a une crise cardiaque lundi, tu vas arriver mercredi. Ou s'il a une crise cardiaque dimanche, tu vas arriver mercredi ou jeudi. Et de toute façon, tu arriveras trop tard. Et donc, ma mère qui pleurait, qui était en crise, et moi, je savais pas quoi faire.
Mais oui, vous ne saviez pas quoi faire, d'abord parce que il y avait peu de chances que vous puissiez faire, puisque étant enfant, c'est difficile à faire. Mais surtout, vous étiez mal de voir que votre papa agissait comme si de rien n'était, comme il ne comprenait pas votre mère. C'était votre douleur à vous de voir, tout enfant que vous étiez, je pense que vous perceviez parfaitement. C'est pas tellement de ne pas savoir quoi faire. Vous perceviez que votre père ne sentait pas ce que sentait votre mère. Et que sa parole de dire n'aille pas, ta 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 ta, c'était une parole désabusée de quelqu'un qui est extérieur au problème. Il ne sait pas ce qu'une fille peut vivre lorsque un père est gravement malade, il peut mourir. Il faut y aller, il faut prendre les trains et arriver même si on arrive en retard.
Mais peut-être aussi, Gabriel, vous le connaissiez, j'imagine, votre grand-père.
Oui.
Et je pense qu'il y a peut-être aussi la grande tristesse de savoir, d'entendre que vous alliez perdre votre grand-père. Et donc là, on revient à ce que dit beaucoup le docteur Nasio dans son livre, c'est que finalement, c'est les pertes qui nous font aussi peut-être parfois nous rendre déprimés. Et peut-être que tout d'un coup de réaliser que vous alliez perdre votre grand-père, c'est ce qui vous a fait le plus grand mal. Et là, vous étiez dans l'impuissance face à quelque chose où là, on est réellement dans l'impuissance, c'est-à-dire face à la mort. Peut-être qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, merci de votre question, Gabriel. C'était vraiment bien, parce que c'est une vraie question. Je crois qu'on reviendra peut-être sur cette idée de perte après les infos. Mais tout de suite, on se quitte pour les infos. On reste avec vous, bien sûr, docteur Nasio.
14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Et c'est reparti pour cette deuxième heure, toujours avec le docteur Nasio. On parle de la dépression et son livre ne sortira malheureusement qu'en début 2021. Il y a vraiment de quoi tomber en dépression, docteur Nasio. Alors plus sérieusement, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il y a il y a deux choses qui prédisposent plus à la dépression chez nous, hein, en tant qu'humains. Alors c'est soit une estime de soi un petit peu fragile, ou alors une très très grande sensibilité, une hypersensibilité. Et ça, c'est vrai que on le voit bien, les gens qui sont très très émotifs sont souvent plus facilement déprimés, ou en tout cas sont plus à risque.
Ça, absolument. Et puis en particulier, j'ai constaté un grand nombre des patients déprimés qui avaient subi des traumatismes dans leur enfance, c'est-à-dire des traumatismes, l'abus sexuel bien sûr, mais aussi la maltraitance ou quelquefois la négligence ou même, par exemple, l'abandon directement. Les enfants qui ont été abandonnés ou maltraités ou abusés risquent, c'est pas sûr, mais beaucoup de ces enfants risquent de devenir des adultes ayant une grande fragilité, une grande disponibilité, susceptibilité de se déprimer. Oui.
Ça se comprend, hein, parce que quand on est éduqué, élevé dans une certaine confiance et sécurité, évidemment, ça consolide notre estime de nous-mêmes,
voilà.
et ça donne un socle plus solide.
Voilà, exactement. Et vous savez, Brigitte, vous avez dit hypersensibilité. Effectivement, il faut savoir, et notre émission est pour ça, pour informer aussi, que la personne déprimée a été toujours dans une personnalité pré-déprimée. C'est ce qu'on appelle la personnalité pré-dépressive. Donc, et en général, la personnalité pré-dépressive est celle d'une personne qui, étant enfant, a subi une blessure ou un traumatisme particulier, ça la fragilise et la prédispose à la dépression. Donc la plupart des déprimés, c'est pas des déprimés du jour au lendemain, sont des personnes qui sont déjà fragiles à l'avance, avant la dépression.
Bien sûr. Roland est avec nous maintenant. Bonjour Roland, merci d'être sur Sud Radio.
Bonjour Brigitte, bonjour docteur Nasio et merci de me recevoir à l'antenne.
Je vous en prie.
Alors, voilà, j'aurais souhaité intervenir à l'antenne pour vous faire part un petit peu de ma propre expérience et puis de la désagréable mésaventure que j'ai connue avec la dépression et ce que je pourrais appeler avoir subi une dépression. C'est-à-dire que il y a environ 2 ans. J'ai eu des petits soucis de mal-être. Alors je me définirais à la base comme étant quelqu'un qui a toujours été joyeux, toujours a priori sûr de soi, insouciant. Et en 2009, c'est parti, je pense, de ça parce que c'est mon épouse qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Du fait qu'on ait eu notre premier garçon en septembre 2009, et l'arrivée en paternité a provoqué chez moi, je pense, un déclenchement de quelque chose peut-être d'angoissant.
Il fallait sortir de l'adolescence, quoi.
Voilà, alors je pense que sur le coup, je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Et voilà, notre premier garçon à l'âge de 2 mois a fait une piélonéphrite qui l'a contraint à rester à l'hôpital en surveillance pendant environ presque une semaine.
Oui.
Donc suite à le premier soir, nous sommes rentrés à la maison tous les deux, tout seuls, mon épouse et moi. Et là, j'ai eu ma première crise de nerfs, ma première grosse crise d'angoisse que j'ai eu du mal à gérer, que j'ai eu du mal à expliquer. Je voulais absolument retourner à l'hôpital, rester auprès de mon fils, et je voulais absolument pas, et je comprenais pas qu'on puisse refuser la présence d'un parent auprès de notre enfant. Donc mon épouse a discuté un petit peu avec moi, elle est beaucoup plus pédagogue et beaucoup plus posée que moi à ce niveau-là, donc elle a réussi à me calmer. Et puis le temps passant, bon, les choses se sont arrangées. Et quelques mois plus tard, quelques années après, à chaque fois qu'on partait en vacances, une année, je me souviens, on était en Espagne sur la route, on s'est arrêté à l'hôtel, et puis là, bon, notre garçon était déjà un petit peu plus âgé. Et là, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai commencé à rentrer dans une espèce de transe panique, une peur panique, d'avoir un souci de santé, de partir à l'étranger comme ça, et puis d'être un petit peu livré à moi-même avec un enfant à charge, mon épouse. Et c'est là où j'écoutais tout à l'heure l'intervention de la personne précédente, pardon, qui
de
disait
Gabriel,
que
oui.
Voilà, exactement, qui avait le sentiment
d'impuissance,
d'impuissance, exactement. Parce que j'ai toujours eu l'impression de vouloir gérer les choses moi-même, j'ai toujours eu cet instinct protecteur naturel, et pas que pour moi, ni pour mes proches, mais j'ai toujours souhaité intervenir aux personnes en difficulté. Voilà, à la base, je devais être pompier, je l'ai pas été, je n'ai pas devenu pompier. Mais bon, j'ai réussi, j'ai insisté pour faire pour passer mes attestations de secouriste. Donc, je suis secouriste. Donc, je pense qu'il y a réellement chez moi une part de quelqu'un qui aime aider les autres naturellement. Et le fait de me sentir démuni face à ce type de situation a engendré petit à petit, je pense, une sorte d'impuissance qui, au fil du temps, s'est caractérisée par, je pense, le constat d'un.
Mais je trouve Roland, que votre témoignage est intéressant aussi parce qu'on voit à quel point, c'est au moment où votre bébé est grave, enfin, vous avez eu peur de le perdre.
Oui.
Et on voit encore une fois comment la perte peut déclencher en tout cas des crises d'angoisse profondes, voire des déprimes. Non, docteur Nasio?
Oui, d'abord, je trouve que pour Roland, d'abord, merci Roland de votre témoignage. C'est pas facile de faire état des choses que vous avez vécues, difficiles. Je me permets de dire que pour qu'il y ait eu cette crise de nerfs que vous avez eue surtout lorsqu'on vous a refusé la présence pour accompagner votre enfant, que vous sentiez qu'il avait besoin de vous, de ses parents, et que vous êtes secouriste, ce qui est toujours la même question, c'est-à-dire l'angoisse de ne pas pouvoir porter secours à celui qui souffre, que ce soit votre enfant bébé ou plus tard. Mais l'homme, le Roland d'aujourd'hui qui peut me dire ça, je peux dire, tel que j'ai appris dans l'expérience avec mes propres patients, que c'est un homme qui déjà était angoissé avant. Vous avez dit, je n'étais pas souciant. Permettez-moi, je corrige. Je ne le pense pas. Je pense que vous avez été toujours un homme très sensible. Et parce que c'est seulement un homme très sensible avant qui peut avoir des crises de panique comme celle que vous avez eu à l'hôtel ou la crise des nerfs ou la difficulté lorsque votre enfant est né, qui, comme dit Brigitte, effectivement, on a eu peur de, non seulement de ne pas pouvoir l'aider, mais de le perdre, effectivement. Mais il y a une sensibilité en vous depuis l'enfance. Hein. On n'a pas parlé de votre enfance et du contexte de vos parents. Mais je me permets de dire que certainement vous étiez déjà fragile avant d'avoir cette expérience avec votre fils.
Oui, 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 je pense que c'est vrai. Alors, je n'ai pas de souvenir, bon, comme l'auditeur précédent, j'ai le souvenir d'une espèce de petite bagarre entre mon père et ma mère. Quelque chose de toujours traumatisant pour un enfant, c'est sûr. Mais je pense avoir vécu une enfance heureuse, malgré tout.
Vous étiez les seuls enfants où il y avait une fratrie?
Alors j'ai été élevé un petit peu comme un fils unique parce que j'ai un frère qui a 14 ans de plus que moi.
Un demi-frère.
Voilà. Alors c'est un frère puisqu'on est on est frères, vraiment frères, c'est pas des demi-frères, mais disons que lui a vécu sa vie de son côté, on n'a pas eu vraiment de complicité. Il s'occupait de moi quand j'étais petit, plus comme un fils que comme un petit frère. On n'a pas eu vraiment de jeu comme un enfant de 5 ans et un autre de 10 ans pourrait avoir, par exemple, comme mes deux enfants actuellement. Mais j'ai vécu une enfance, on va dire, heureuse, je pense.
Oui, je dirais, si vous me permettez, Roland, oui. Une enfance comme un enfant, le seul enfant unique, comme vous disiez, et dans ces cas-là, certainement surprotégé. Alors, l'enfant qui est surprotégé, trop choyé, souvent, oui. C'est un enfant qui est très sensible et peureux.
Oui, je suis d'accord.
Voilà, plus et ça c'est une chose que je dis aux mères qui viennent me consulter. Aimez infiniment votre enfant, surtout votre garçon, mais attention, ne le surprotégez pas parce que vous l'affaiblissez, madame. Il faut que l'enfant puisse aussi apprendre à se défendre, apprendre à vivre
confronter
des
au
moments
monde, oui.
Des difficultés. Et je pense que Roland a été un enfant surprotégé et du coup avec une fragilité qui s'est révélé certainement à certains moments de sa vie, et en particulier à ce moment dramatique.
Si on fait sur un plan symbolique, d'ailleurs, docteur Nasio, c'est assez intéressant, Roland surprotégé par ses parents et certainement par sa mère, et tout d'un coup, face à son fils, qu'il n'arrive pas à surprotéger, et on voit bien que là, tout d'un coup, se déclenche cette première anxiété, quoi.
Absolument, Brigitte. Comme toujours, je considère que vous êtes une excellente clinicienne. Chaque fois, j'ai l'occasion de vous le dire. Parce que là, la remarque que vous venez de faire complète parfaitement le tableau que j'étais en train de faire. Absolument.
Votre analyse, bien sûr. Bien
absolument.
Sûr. Mais parce que je vous écoute, docteur Nasio. Vous savez, on est un bon élève quand on a un bon maître.
Hein. Alors, justement, si je peux me permettre, en parlant de bon élève et de bon maître, j'ai ma deuxième, la deuxième partie en fait de mon expérience qui me permet de dire que les choses vont un petit peu mieux, du moins je les gère différemment. Je vais essayer d'être bref pour pas trop occuper l'antenne. Il y a à peu près 2 ans, professionnellement parlant, je m'étais beaucoup attaché à obtenir une mutation. Je comptais beaucoup sur cette mutation qui malheureusement n'a pas abouti malgré tous les feux qui étaient ouverts. Et j'ai eu une perte de contrôle, de gros doutes en moi qui ont fait que j'ai malgré tout essayé de mettre ça derrière moi, de l'avaler, comme on dit, un petit peu d'avaler la pilule. Et puis, peu de temps après, j'ai fait une grosse crise d'épilepsie au travail. Et cette crise d'épilepsie, c'était une très grosse crise d'épilepsie. Donc j'ai été hospitalisé. On ne sait pas trop pourquoi j'ai eu cette crise d'épilepsie. Moi,
donc cette crise que vous avez fait à l'hôpital en allant en Espagne. C'est peut-être déjà à ce moment-là, il y a eu un problème épileptique.
Oui,
c'est sûr.
Entre cette crise d'épilepsie que j'ai eue il y a 2 ans, qui s'est déclenchée, on ne connaît pas vraiment trop les raisons, et puis cette première crise que j'ai eue en Espagne, il s'est écoulé quand même pas loin de 7 ans, 7-8 ans à peu près. Hein.
Voilà,
Mais c'est une période pendant laquelle, justement, j'ai eu... mon épouse m'a dit que j'ai commencé à être très angoissé, du moins ces angoisses, ces peurs, ce stress est survenu après la naissance de notre premier garçon.
Ben voilà.
C'est un constat de sa part. Et à partir de là, le point culminant justement de toute cette situation, ça a été que après cette perte de confiance totale, justement cette dans une période de dépression où j'étais au travail et je sais pas si je pense que plusieurs c'est arrivé déjà à certains auditeurs ils vont peut-être reconnaître ce type de symptômes. J'ai l'impression d'avoir des sentiments complètement altérés, d'avoir tout ce qui était autour de moi complètement déformé. J'entendais des choses à la radio qui prenaient un sens complètement différent pour moi, et je me suis dit mais je suis en train de devenir fou, et j'ai eu très très peur. Donc j'ai noté toutes mes sensations que je ressentais, des choses bizarres comme ça, sur un papier, et je me suis dit le lendemain je vais voir mon médecin, je vais lui expliquer tout ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais bon, évidemment, j'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai vu que ça correspondait à un type de dépression. Et donc, à partir de là, j'ai eu très, très peur parce que en allant très, très loin dans la dépression, on tombe sur des choses qu'on veut pas connaître, qu'on veut pas savoir. Et ça parle de suicide, ça parle d'infanticide, ça parle de plein de choses comme ça. Et j'ai eu peur de perdre le contrôle de moi-même. Et de faire
oui, mais
des bêtises
Roland,
pour moi
je rappelle
et pour
souvent,
mon
entourage. Vous inquiétez pas. Il faut pas regarder sur Internet tout ce qu'on peut, tout ce qui. Il faut en parler avec un bon thérapeute ou un bon médecin. Et a priori, vous avez pris conscience de votre fragilité et maintenant c'est à vous de la gérer. Je pense, docteur Nasio, qu'il faut toujours, il faut jamais aller voir sur Internet ce qui peut nous arriver parce qu'on voit toujours le pire. Et ça, c'est assez terrifiant. Allez, merci en tout cas Roland de votre témoignage. Allez, on se retrouve dans un instant avec Pierre Lassue qui va nous parler des parents maltraités et non pas des parents maltraitants.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News.
Eh bien, docteur Nasio, c'est Pierre Lassue que nous retrouvons. Bonjour Pierre.
Bonjour Brigitte.
Alors, vous allez nous parler des parents maltraités. Alors, moi, je pensais que c'était des parents maltraitants.
J'ai retourné ma veste. D'habitude, je parle toujours des enfants maltraités. Malheureusement, c'est un nombre qui est en importante augmentation, semble-t-il, en raison du confinement. Mais il y a aussi des parents qui sont maltraités. Et les situations de confinement font que certains enfants ou adolescents deviennent insupportables parce que ils supportent pas d'être confinés ou parce qu'ils avaient déjà en eux des tendances assez violentes. Et j'ai eu plusieurs témoignages de parents totalement dépassés par les événements, ne sachant plus du tout comment réagir, avec des enfants qui se montrent d'une violence verbale et parfois d'une violence physique. Et voilà, ces parents, souvent d'ailleurs des mères célibataires avec des adolescents qui ne savent plus à quel fin se vouer. Et c'est une réalité qu'il ne faut pas ignorer parce que je pense que personne n'en parle, on n'évoque pas ces situations. Alors effectivement, c'est choquant de penser que des enfants maltraitent leurs parents, c'est rarissime, mais ça existe. Et
oui. Pierre Lassue, j'ai déjà eu, je me souviens, des témoignages de mères, justement, souvent des mères, en effet, seules, qui avaient des ados de 15 ans, et quand elles essayent de l'interdire de sortir, l'ado bouscule sa mère, la fait presque tomber, et sort. Voilà. Alors bon, là, je ne sais pas s'ils sortent, parce qu'ils sont, peut-être qu'ils respectent le confinement, mais c'est même pas sûr, parce qu'un ado qui ne respecte pas sa mère, on peut penser qu'il ne respecte pas beaucoup la loi.
Il ne respectera pas non plus la loi. C'est une réalité. Alors, je pense qu'il y a des moyens de se faire aider. Je crois que il ne faut pas que les parents restent, ou notamment les mères, restent seules en face de ça. Et il y a des numéros d'appel, SOS parents maltraités. Il y a notamment un numéro qui s'appelle Jeunes Violences Écoute. C'est le 0800 20 22 23, où les parents qui sont en difficulté pourront trouver une aide, probablement une aide psychologique, ou être orientés vers des services qui pourront intervenir, vers des groupes de parole, encore que par les temps qui courent, je ne sais pas si c'est très réalisable, mais enfin c'est une réalité qui est en effet extrêmement préoccupante, à la fois pour les parents victimes, si j'ose dire, mais aussi pour les enfants, parce que bien entendu que à un moment ou à un autre, ils vont être rattrapés par la culpabilité, par des relations qui ne seront plus possibles. Donc je crois que c'est un sujet qu'il faut prendre au sérieux, même si statistiquement, en effet, il n'y a pas comparaison possible avec les violences faites aux enfants ou avec les violences faites aux femmes par des conjoints violents, mais il existe des parents qui sont en grande difficulté, oui, devant des adolescents, mm-hmm, notamment, qui sont insupportables, mais même des plus petits. J'ai eu des exemples d'enfants de 10-12 ans. Bon, alors là, il n'y a pas de problème de violence physique, mais ces enfants, ils pètent les plombs, comme on dit, et ils deviennent absolument ingérables avec l'entourage.
C'est pour ça que, d'abord, je vous remercie, Pierre, pour ces témoignages. C'est un aspect que je signale souvent. Vous savez, je reçois en consultation des familles, des parents, des mères seules. Et effectivement, comme dit Brigitte, d'abord, c'est l'absence d'un tiers.
Oui.
La situation duelle, c'est toujours une situation de conflit. Quand il y a deux personnes, que ce soit un homme, une femme, que ce soit une mère et un enfant, un père et une fille, ou un père et le fils, les deux, le chiffre D n'est pas bon pour l'entente. Il faut toujours trois.
Oui.
Donc, évidemment, il manque le père. Mais je voudrais dire aux auditeurs ou auditrices qui ont ce type de problème, les mêmes conseils que je donne aux mamans lorsqu'elles viennent me voir, je leur dis ceci, surtout lorsqu'il s'agit d'un adolescent difficile. Premièrement, ne l'affrontez pas. Ne l'affrontez pas. Évitez l'affrontement. Et si vous avez à réclamer des choses, faites une chose simple. Faites-vous des priorités de réclamation. Je veux dire, il y a des choses qui sont absolument indiscutables qu'un enfant adolescent doit faire. Il y a deuxièmement des choses qu'on peut considérer, on peut tolérer. Et troisièmement, il y a des choses qu'il ne faut pas s'en occuper. Donc il faut que le père ou la mère qui est dans cette situation des maltraitances ou des conflits très difficiles avec son enfant, en particulier son adolescent, trouve ça, il faut qu'il sache faire des priorités dans la relation.
En fait, hein. Oui.
Et toujours avec cette consigne que je donne de ne pas affronter. Donc, en d'autres termes, quand le père ou la mère voit que l'enfant s'énerve, à ce moment-là, il faut arrêter. Il ne faut pas continuer. Il ne faut pas lui faire face. Il faut revenir plus tard éventuellement.
Ouais, on peut revenir plus tard et on peut définir, même y compris par écrit, et donner à lire à l'enfant, voilà, les priorités dont vous parlez. Ça,
absolument,
ce n'est pas négociable.
C'est une bonne idée. L'autre chose, c'est de se faire aider avec un oncle ou un grand-père.
Oui,
il faut toujours le tiers.
Oui,
un tiers,
oui,
ça aide. Un ami, un voisin.
Et puis
que l'enfant respecte.
Assurer l'enfant que on l'aime. Mais que certaines choses ne sont pas tolérables. Ça met en cause l'amour,
exact,
mais ça met en cause la vie en commun possible.
Voilà, il faut une ou deux, hein, pas plus. Une ou deux.
Voilà.
Pas tolérables, une ou deux. Et surtout, avoir un tiers, si c'est possible,
si c'est possible,
que l'enfant respecte.
Voilà.
Un tiers un peu plus étranger, si je veux dire, la famille.
Bien sûr.
Oui.
Merci en tout cas de ce rappel, Pierre Lassu. Je signale aussi qu'il doit y avoir des parents âgés qui doivent peut-être ne pas être très bien traités non plus par leurs enfants adultes, eux, mais c'est aussi une autre histoire qu'on pourra peut-être l'évoquer une autre fois. Merci beaucoup, Pierre Lassu. Docteur Nasio, on se quitte un court instant et on se retrouve pour le Love Conseil. Je vais vous parler de nos deux besoins amoureux.
Brigitte Lahaye, Sud Radio, le Love Conseil.
Eh bien, docteur Nasio, nous avons deux besoins importants en amour. Alors, on a besoin d'une relation sécurisante qui nous permet d'avancer ensemble, en confiance. Et puis, on a aussi besoin d'une relation excitante, pleine de sensations nouvelles. Alors, c'est pas toujours simple à gérer parce qu'une relation qui dure depuis déjà de nombreuses années va forcément perdre en excitation. Et alors, il y a plusieurs manières de gérer ces deux besoins qui sont, a priori, en effet, pas toujours très compatibles. Alors, Je crois que la première, qui est souvent celle qu'on entend le plus, hein, je ne veux pas en entendre parler, donc je surinvestis un peu mon travail ou une passion pour aller chercher ailleurs des excitations que je ne trouve plus dans le couple. Ça, c'est une façon peut-être de sublimer autrement sa sexualité, hein, on pourrait dire ça, docteur Nasio. La deuxième, c'est, bah, je ne veux pas en entendre parler, mais je me frustre, je déprime un peu, à moins d'être totalement habité par une morale religieuse et de trouver normal de rester frustré si on n'a plus beaucoup d'excitation et dans sa sexualité. Alors, troisième solution, bah, moi, je suis comme je suis quelqu'un d'entier, donc tous les 2-3 ans, je change de partenaire, puisque au bout de 2-3 ans, on sait très bien que c'est à peu près le temps d'une passion et qu'ensuite, ben, c'est plutôt un amour paisible qui se met en place. Et donc ça, moi, j'en veux pas. J'ai toujours besoin d'excitation. Quatrième solution, bon, je veux bien, hein, je négocie dans notre couple pour éventuellement pratiquer du libertinage ou le polyamour. Voilà, c'est une manière de décider ensemble qu'on a le droit ailleurs de chercher un peu d'excitation. Et puis cinquième solution, je veux garder mon couple parce qu'on est des vrais amis, on s'entend bien, c'est un couple solide. Et puis discrètement, eh bien, je vais vivre des aventures parallèles. Voilà un peu les cinq manières de vivre pour à la fois gérer ces deux besoins fondamentaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, docteur Nasio?
Oui, je suis d'accord avec ces différentes éventualités. Tout ça existe, mais ce qui existe le plus souvent dans un couple relativement stable et qui dure, comme vous l'avez dit, c'est ce qui dure, ce qui est le mélange des deux.
C'est-à-dire oui, que, tout, oui,
heureusement, je dirais que c'est le mélange des deux, la satisfaction du besoin de tendresse et la satisfaction du besoin sexuel. C'est ce qui est la majorité. Mais bon, effectivement, il y a les cinq variantes que vous pouvez donner qui, effectivement, peuvent aussi exister. Mais je voudrais dire que ce que j'ai appris avec mes propres patients, puisque ça fait 55 ans que j'écoute des hommes et des femmes, et au niveau de la sexualité et de l'amour, c'est une chose extraordinaire que je ne savais pas au début. C'est combien la tendresse, combien l'amour peut conduire au sexe. C'est-à-dire que souvent, il y a des couples qui viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes, qu'il y a la femme qui ne veut pas de rapport sexuel, souvent c'est elle qui refuse, et je donne le conseil souvent au couple d'avoir de rendez-vous amoureux, mais un rendez-vous amoureux d'abord, et tout d'abord, et la première moitié du rendez-vous, je dirais, c'est tendresse. C'est-à-dire de faire des gestes tendres, de se caresser tendrement dans la tête, le visage, la main, rien de sexuel. Et si, et je conseille donc à ces couples-là qui ont ce type de problème, que si si petit à petit, au niveau de ces premiers temps de rendez-vous amoureux, de tendresse, on a des excitations qui apparaissent, on a envie d'aller plus loin, alors à ce moment-là, l'excitation apparaît et le sexe peut se réaliser convenablement.
Et oui, tout simplement parce que la femme a besoin d'un temps un petit peu plus long pour s'exciter.
Exactement. Et la femme est aussi l'homme. Aussi l'homme. Le problème avec l'homme, c'est que nous, les hommes, sommes tous un peu trop impulsifs. La sexualité chez l'homme est très différente de la sexualité chez la femme. Parce que la psychologie chez l'homme est différente de la psychologie chez la femme.
Bien sûr.
Donc, l'homme est plus allé très vite. Mais ce temps des tendresses est bienvenu pour la femme, comme vous venez de le dire, Brigitte, mais aussi pour l'homme. Parce qu'il doit apprendre à savourer qu'est-ce que c'est que d'être tendre, de recevoir la tendresse de la femme.
On va continuer avec cette page Facebook, Sexe, Amour et Confinement. Vous avez la possibilité, vous aussi, sur Sud Radio, d'aller donner votre témoignage. On en a parlé hier avec Dominique Leroy. Et puis, j'ai choisi ce témoignage d'un homme qui, visiblement, ne vit pas si bien que ça son confinement. Il nous dit que, les minutes passées dehors sont précieuses et qu'il n'imaginait pas que dans un pays démocratique, on pouvait autant être privé de cette liberté d'aller et venir. Alors, il continue à travailler, bien sûr, à son domicile. Et donc, il fait un job, généralement, que les femmes admirent. Et donc, il n'a qu'à claquer des doigts pour avoir quelques femmes à ses pieds. Alors, il ne nous a pas dit quel métier il faisait, donc je vous laisse imaginer. Et puis, en ce moment, c'est dur pour lui. Il est jeune, il est vigoureux, et puis il n'est pas très pressé de se caser. Il avait l'habitude de collectionner des femmes et encore des femmes. Et puis, il sort de temps en temps, mais il dit « j'en vois pas beaucoup des femmes ». Et puis certaines, elles ont même un masque sur le visage. Et ça, c'est franchement un tue-l'amour. Et puis c'est interdit, évidemment, de s'arrêter pour draguer. Donc, de temps en temps, j'arrive à lancer un compliment à une joggeuse, on ne sait jamais, hein, pour l'après-confinement. Et il dit que cette solitude, en fait, le fait réfléchir sur lui-même. Il se remémore la liste de toutes ses conquêtes, enfin du moins celles dont il se rappelle. Il s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes seules, qui n'avaient pas d'enfants. Et peut-être que c'est parce qu'elles étaient libres, qu'elles étaient peut-être plus disponibles. Mais il constate aussi qu'il se faisait toujours larguer au bout d'une semaine ou deux. Et il pense que c'est peut-être maintenant qu'il est en manque d'affection, qu'il a peut-être envie d'autre chose. En tout cas, pour l'instant, il regarde des pornos, il ne trouve pas ça très satisfaisant. Et il a besoin qu'on l'admire, qu'on le désire. Et il termine en disant cela, docteur Nasio, « Jamais je n'aurais cru écrire ça. » Qu'est-ce que ça fait du bien de le dire ? C'est joli parce qu'on voit là, encore une fois, quelqu'un qui se pose des questions sur sa vie et qui peut-être la vivra pas pareil dans le monde d'après.
Absolument, absolument. Et puis c'est bien qu'il puisse l'écrire, comme il le dit. Parce que écrire, c'est une manière de transformer cette énergie qu'il a libidinale, la transformer en ce que nous appelons sublimation. C'est-à-dire, il va sublimer cette énergie libidinale dans une autre énergie qui est de pouvoir trouver les mots pour écrire ce qu'il vit et ce qu'il désire. Tout ça, sa vie intime, sa vie intérieure.
Absolument. Alors voilà. Vous aussi, vous pouvez aller sur cette page Facebook « Sexe, amour et confinement » et pourquoi pas, si vous avez envie de témoigner à l'antenne, on vous attend sur ce radio. On retrouve Gérard maintenant qui est avec nous. Bonjour Gérard. Non, je crois qu'on a perdu Gérard. Vous êtes là Gérard, bonjour. Oui, on vous entend, c'est bon.
Oui, je manipule très mal le téléphone. Je ne savais plus comment faire.
Non, la preuve, vous êtes là, tout va bien.
Oui, ouais, sur la barre. Voilà, oui. Bonjour,
Brigitte. Vous avez traversé des longues périodes de dépression, je crois. Hein.
Tout à fait, oui. Je pense que toute ma vie a été bercée, enfin, si on peut appeler ça bercée, par des dépressions. C'était vraiment très, très, très dur à vivre depuis toujours. Depuis mon adolescence,
vrai qu'on ne l'a pas dit depuis le début de l'émission, docteur Nasio, mais c'est douloureux d'être en dépression. C'est vrai que parfois, ceux qui sont à côté, ça les agace un peu, ils ont l'impression qu'il faut bousculer l'autre, etc. Mais en fait, c'est très douloureux, la dépression.
Absolument. D'ailleurs, quand on a commencé l'émission pour définir la dépression, je disais que c'est une tristesse. Et une tristesse acrimonieuse, une tristesse amère, c'est aussi une douleur. C'est pas une tristesse supportable, c'est une tristesse insupportable, comme une douleur interne, une douleur qu'on sent dans la poitrine.
Tout à fait.
Une douleur physique.
Terrible. Et je pense que... peut-être que le terme n'est pas trop approprié, mais je pense que nous sommes des incompris, parce qu'apparemment tout va bien pour nous, mais on est très mal, quoi. C'est impressionnant, quoi, comme sentiment de... Moi, j'ai eu des moments de détresse pas possible, quoi. Des idées noires, des... Justement, je voulais parler de... faire un petit peu... Je pourrais pas... Enfin,
l'occasion... Pardon, vous avez dit, pardon, je n'ai pas compris.
Des détresses pas possible, quoi. On est incompris, on essaie tout faire, idées noires et compagnie. Bon, j'ai eu la chance de pas passer à l'acte, mais dernièrement là, j'ai eu une information tout à fait par hasard. Vous savez, docteur, vous devez le savoir mieux que moi, vous savez qu'il y a 200 000 tentatives de suicide par an en France.
Mmh.
Tentatives, hein, je ne dis pas des gens que...
Oui, c'est vrai.
Oui, tentatives, c'est impressionnant comme chiffre. Vous vous rendez compte
Et vous en avez fait des tentatives, vous, Gérard?
Non, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance de pas en faire. Parce que je dis justement, là, l'occasion m'est donnée, Brigitte, je vous remercie de me tendre la perche. C'est quelque chose que j'aimerais un jour pouvoir défendre, qu'on dit que le suicide, ce sont que les lâches qui le font. Mais moi, je suis désolé. Je me dis qu'il faut avoir un courage incroyable pour pouvoir passer à l'acte.
Et c'est plus qu'un courage. Je me permets de vous interrompre, Gérard.
Oui.
C'est plus qu'un courage. C'est-à-dire que celui qui passe à l'acte, c'est un acte de... C'est quelqu'un qui est comme dans un rêve, le moment de passer à l'acte. C'est dans un fantasme, nous appelons ça fantasme. Une sorte d'état second. Et parce qu'il est malade. Je l'ai dit ça parce que parfois il y a l'éloge des suicides un peu dans l'opinion commune. Parfois on croit que c'est très bien. Non, c'est un acte maladif, un acte pathologique où la personne est dans un état second et il se tue. Il disparaît.
Mais je crois que c'est toujours la même histoire, c'est qu'il faut voir le suicide comme quelque chose d'insupportable à vivre et non pas un désir de mourir. C'est pas du tout la même chose.
Alors justement, c'est ça qui fait que les suicides sont différents. Il y a des gens qui se tuent et qui ne veulent pas se tuer. Par exemple, je pense à la schizophrénie, qui est une maladie de jeunesse grave. En général, les suicides des schizophrènes, c'est la défenestration, c'est-à-dire qu'ils se jettent d'un balcon. Mais au moment de partir, le fantasme, l'état second, c'est de dire « je veux me débarrasser de mon corps ». Et comme s'ils voulaient tuer le corps, mais pas se tuer eux-mêmes. Et la même chose avec des patients que nous appelons dans notre jargon des patients hystériques, qui prennent des médicaments en grande quantité et qui ne veulent pas mourir. Ils veulent dormir de manière éternelle, pour toujours, pour ne pas sentir, parce que la vie est insupportable. Et sans le vouloir, ils se tuent. Donc, les seuls qui vraiment se tuent parce qu'il a une volonté nette de vouloir se faire mal et disparaître, c'est la mélancolie, qui est une maladie, justement, c'est une maladie grave, très grave. Le mot mélancolie a été utilisé dans la littérature et dans les poèmes de Lamartine ou d'autres encore dans la fin du 19e siècle. Mais la mélancolie est une maladie très grave où souvent le mélancolique se tue d'une manière, d'une cruauté extraordinaire parce que lui, vraiment, veut disparaître son être, non pas son corps, être.
Mais Gérard, je me permets de vous dire, parce que vous avez souri en prenant l'antenne, en disant que vous manipuliez pas toujours très bien le téléphone, etc. Peut-être qu'il y a chez vous une petite part d'humour qui vous sauve, même dans les moments terriblement douloureux de vos dépressions.
Oui, peut-être, je ne suis pas trop... Je veux revenir sur le suicide, là. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur, là. C'est la souffrance est telle que c'est un soulagement, quoi. Je veux dire, de mon entourage, j'ai eu, malheureusement, des gens que 48 heures avant de passer à l'acte, ils étaient en pleine forme. Pourquoi, moi, je pense, ils avaient pris leur décision, ils allaient en finir, ils n'en pouvaient plus. Et le fait d'avoir pris la décision, on souffre tellement psychologiquement qu'il n'y a plus que existe des solutions. Moi, j'ai tout essayé. Hein.
Oui, et puis vous avez dit quelque chose aussi, peut-être, sur lequel il faut revenir. Vous avez dit on se sent incompris. Oui. C'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre quand on ne sait pas ce que c'est que la dépression. Hein. Oui. Tout le monde n'est pas psychanalyste ou thérapeute. Mmh. Et donc, le fait de se sentir incompris fait qu'on se sent aussi terriblement isolé. Et se sentir terriblement isolé, on a l'impression que finalement, on compte pour personne. Mmh. À quoi mmh. bon tout bon, ça mais... augmente encore la douleur, bien sûr.
Oui, parce que, comme je vous disais aussi au départ, apparemment, tout va bien. Hein. Moi, je veux dire, j'ai une réussite professionnelle, je travaille à mon compte et tout, donc voilà. Non, mais je veux dire, je veux revenir dessus, j'insiste, j'aimerais qu'un jour, je veux pas persuader les gens, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais qu'on arrête de dire que quelqu'un qui se suicide, c'est un lâche, c'est absolument faux. Pour moi, c'est absolument faux, quoi. Quelqu'un qui se suicide, sans prise de médicaments, d'alcool, de drogue et tout. Moi, je suis pas du tout dans ce cas. J'ai eu la chance de jamais tomber dans la drogue, dans l'alcool, dans des excès pas possibles. J'ai toujours été conscient de mon mal-être et tout. Et j'ai failli le faire, ça. Mais j'ai pas eu le courage. Je vous dis franchement, j'ai pas eu le courage. Plusieurs fois.
Mais tant mieux.
Ah oui, tant mieux, heureusement.
Ah oui.
Merci. Tant mieux que vous soyez encore avec nous,
Gérard. Ça montre que Gérard a il y a la douleur insupportable qu'il a vécue, mais il a aussi une conscience lucide. Et ça, on a besoin de ça aussi pour les patients que nous suivons. C'est-à-dire, on a besoin que le patient lui-même, il y a la part où il se prend en charge lui-même aussi. Et là, oui, Gérard est un exemple de cela.
Merci Gérard de votre témoignage en tout cas. Allez, on se quitte un court instant, docteur Nasio, et puis on va conclure avec Rémi également qui nous a rejoint sur Sud Radio.
14h, 16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Toujours avec le docteur Nasio, nous avons évoqué la dépression durant ces 2 heures et je remercie tous ceux qui ont témoigné. Curieusement, on n'a eu que des hommes, docteur Nasio, ce qui ne veut pas dire évidemment que les hommes sont plus en dépression que les femmes, bien au contraire. C'est intéressant de le signaler quand même.
Oui, parce que dans la population des patients déprimés, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses.
Oui,
il y a plus de déprimées femmes que de déprimés hommes.
Mais bon, c'est comme ça, c'est les...
Oui, il y a des raisons à ça, mais bon, ça serait pour une autre émission.
D'accord.
Et je voudrais, si vous me permettez, Brigitte, que comme oui, c'était à l'occasion de mon prochain livre qui s'intitule « Tout le monde peut-il tomber en dépression ?»« Tout le monde peut-il tomber en dépression ?» C'est le titre de mon livre qui devait paraître en avril et finalement... Et à cause du confinement, a été reporté au début de l'année 2021. Donc, nos auditeurs qui voudraient lire le livre, il va falloir attendre un tout petit peu jusqu'à janvier, février 2021.
Voilà. Mais moi, je l'ai lu, donc tout va bien. Je sais que je suis à peu près tranquille. Je ne risque pas trop de tomber en dépression, bien que je sois une femme. Mais on en reparlera, docteur Nasio, ça me donnera l'occasion.
Absolument, c'est un plaisir toujours d'intervenir partager. Dans votre émission.
Alors Rémi est avec nous et votre témoignage est intéressant, Rémi, parce que vous avez traversé une longue période de dépression et durant cette période, évidemment, vous n'aviez plus beaucoup de désirs et ça c'est relativement normal, évidemment. Bonjour Rémi.
Bonjour. Oui, effectivement, En 2016, j'avais eu une dépression, moi je l'ai interprétée comme ça, j'ai pas vu de médecin, hein, mais bon, j'avais un rejet du travail, j'avais plus envie d'y aller, j'y allais à reculons parce que j'étais à mon compte, donc j'étais obligé d'y aller, mais je sais que bon, j'y allais à reculons, et c'est vrai que là, bon, ça va mieux parce que maintenant j'ai pris la retraite, donc j'ai arrêté, j'ai un peu tourné la page de cette fin d'activité. Mais par rapport à, j'ai perdu donc le désir avec ma femme, bon, à ce moment-là, parce que j'avais plus envie de faire l'amour, enfin, bon, j'y arrivais pas, la libido n'était pas là. Et là, maintenant, bon, ben, ça revient bien, mais bon, c'est vrai que je trouve que j'ai pas trop de désir pour ma femme, j'aurais plus tendance à regarder ailleurs que vers elle. Donc je me demande si c'est suite de ça que ça a cassé quelque chose ou comment ça peut se faire, je sais.
Alors,
pas.
Alors ça, c'est évidemment vous qui allez pouvoir donner la réponse. Ce qu'on peut faire, c'est vous aider dans votre questionnement. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de pannes pendant le temps où vous avez essayé de lui faire l'amour, par exemple?
Ben, oui, des fois, bon, ça, j'arrivais pas à avoir d'érection. Des fois, bon, ben, je mettais du temps à éjaculer, ça, j'arrivais pas à éjaculer. Donc, elle me demandait, bon, t'y arrives, et puis bon, moi,
D'accord. Ça me donc, si vous voulez, voilà, le fait d'avoir été mis en échec et qu'elle ait vu vos échecs peut faire que maintenant, vous évitez des situations où vous pourriez... Vous savez, la sexualité, il y a quelque chose de terrible dans la sexualité, c'est qu'il y a une sorte de mémoire de ce qui s'est passé. Et cette mémoire de ce qui s'est passé fait qu'on a peur de se retrouver dans une situation qu'on n'a pas aimée. Donc ça peut être ça. Je ne dis pas que c'est ça, hein, mais ça peut être une des causes de votre manque de désir aujourd'hui.
Absolument. Et ça, c'est la part d'angoisse du déprimé. Vous aviez dit, on a dit dès le début, l'important de l'angoisse et de l'anxiété chez les patients déprimés. Eh bien, l'angoisse, c'est la peur, là. C'est la peur chez Rémi d'avoir à retrouver une situation dans laquelle il est impuissant. Absolument.
Mais là, bon, maintenant, ça, les érections, c'est reparti. Bon, il n'y a pas de problème.
Oui,
bon,
ça fonctionne.
Là, c'est elle, j'ai l'impression qu'elle est très sèche, que bon, ça marche pas non
alors,
plus.
Elle, alors, ça l'a peut-être. Alors, attention, Rémi, parce qu'elle aussi, ça l'a peut-être un petit peu détournée, ça a peut-être un peu coupé son désir, cette période où vous avez eu une sexualité qui était un peu bancale. Donc, moi, je crois que ce qui serait important, si vous avez envie de retrouver une harmonie sexuelle entre vous, ben, il faut changer votre manière de faire l'amour. Il faut changer quelque chose, il faut repartir, si je puis dire, sur des bases différentes pour effacer cette période qui n'a pas été très, très positive.
C'est-à-dire changer.
Ben, déjà, changer, peut-être par simplement exemple, c'est que décorer votre chambre autrement.
Oui, ou bien ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de donner priorité à la tendresse. Souvent, Rémi a besoin aussi de rassurance. Et il faut que la femme le rassure. C'est ce temps que vous disiez, Brigitte, où la femme a besoin d'un temps pour trouver l'excitation. Et nous disions que les hommes aussi, bien, voilà
oui,
l'exemple de Rémi qui a besoin de ça.
Je suis d'accord avec ce que vous dites, docteur Nasius, sauf que je crois que c'est important, dans le cas de Rémi, de mettre un peu plus de jeu et de ludique, parce que sinon, s'ils vont sur une idée d'être un peu plus tendre, un peu plus, etc., ça va être comme si on a eu des échecs, oui. Et puis il faut que... Vous voyez, je pense qu'il faut y mettre de la joie, Rémi.
Il faut voir si Rémi peut... Parce qu'il y a il faut un peu l'esprit du jeu, l'esprit ludique, et peut-être Rémi ne l'a pas. Enfin,
oui, ou
voilà,
ne l'a
sont
pas.
Deux approches complémentaires. Hein.
Oui, mais souvent le fait de remettre un petit peu plus de jeu, d'humour, va faire que vous allez un petit peu banaliser quelque chose qui a été pris trop au sérieux, puisque ça n'a pas marché. La sexualité, quand elle ne marche pas, on a tendance à y mettre trop de sérieux. Vous comprenez, Rémi? Donc il faut mettre de la légèreté. Vous entendez?
Oui, c'est pas évident, parce que quand simplement on se balade et tout, si j'ai un peu tendance à regarder quelqu'un, bon, parce que elle est mignonne, elle me plaît, ou un truc comme ça, bon, de suite, il y a un truc de jalousie qui sort dans son propos, et je me dis merde que...
Parce qu'elle a certainement souffert. Elle a certainement souffert de vous voir ne plus la désirer. Parce que dans sa tête, si vous étiez en panne, vous ne la désiriez plus. Et donc ça a mis en péril son estime d'elle-même. Et donc ça réveille la jalousie, tout ça. Donc c'est vraiment pour ça que je crois qu'il faut que vous amusiez à nouveau ensemble. On est en toute fin d'émission, Rémi. Donc j'ai peut-être encore plein d'autres conseils à vous donner, mais l'heure, c'est l'heure. Donc on pourra en reparler, si vous voulez, demain avec Alain Erin, puisque de toute façon, on va parler de l'orgasme. Merci beaucoup, docteur Nasio. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous dis à très vite. Tout de suite, je vous laisse avec C'est votre avenir. Et puis, bien sûr, demain, on parle de l'orgasme avec Alain Erin. Ça va aller très, très haut.